Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers vos témoignages sans filtre. Si vous aimez et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez me mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre appli d'écoute pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire étonnante de Jean-Philippe Gel. Il vit en Suisse, où il est le seul homme à pratiquer la natation synchronisée en compétition. Jean-Philippe a publié un livre aux éditions Favre, « Je peux pas, j'ai synchro ». C'est comme cela que j'ai découvert son histoire. L'histoire d'un enfant élevé dans le culte de la testostérone, qui, une fois adulte et durant toute sa vie, a voulu se conformer à ce que son père attendait de lui, jusqu'à se retrouver militaire armé d'un lance-roquettes, à se demander « qu'est-ce que je fais là ?». C'est l'histoire d'un homme qui, pendant 40 ans, traîne un mal-être qu'il ne parvient pas à s'expliquer. Jusqu'à renaître et découvrir ce qu'il avait enfoui tout au fond de lui, grâce à la natation synchronisée. C'est l'histoire d'une lutte pour savoir qui l'on est et ce que l'on veut vraiment. Une lutte pour s'accepter, puis pour se faire accepter. Aujourd'hui, la synchro, comme il dit, c'est toute sa vie. Il ne passe pas un jour sans son maillot de bain. Lorsque je le rencontre, Jean-Philippe est de passage à Paris, il vient juste de poser ses bagages. Son éditeur l'a chouchouté en lui prenant un hôtel entre la Tour Eiffel et la piscine municipale. D'ailleurs, il est allé nager en attendant notre rendez-vous. Le voilà donc dans les meilleures conditions pour plonger dans ses souvenirs et me raconter son incroyable parcours. Comme un fil que l'on déroule, où à la fin, tout fait sens. Encore faut-il ouvrir les yeux et saisir les messages de la vie. Aujourd'hui encore, je vous propose un épisode en deux parties. Voici la première.
Je suis né à Amiens et avec ma mère, j'ai vécu pendant 12 ans dans un petit village qui n'était pas loin de là, qui s'appelle Erren. Pendant ces 12 premières années de ma vie, j'ai vécu exclusivement avec cette maman. Je représentais tout pour ma mère, je m'en rends compte maintenant. Et j'étais sa bouffée d'air frais, j'étais son trésor, quoi, tout simplement. Et donc, mon père était très peu présent. Il était commissaire de police dans le nord, à une centaine de kilomètres de là où j'habitais avec ma mère. Et il avait un logement de fonction, en fait. Et je le voyais peut-être une fois par mois. Donc pendant 12 ans, j'ai vécu exclusivement avec cette maman, et ce papa était quelqu'un d'absent. Et donc, au bout de 12 ans, il est arrivé, parce qu'il s'est retrouvé à la retraite. Il a été beaucoup plus âgé que ma mère, donc il y avait pratiquement 20 ans d'écart entre les deux. Et quand il s'est retrouvé à la retraite, il s'est décidé de me reconnaître.
En fait, tu apprendras bien plus tard un secret de famille. Ton père avait une autre vie. Il a eu avant toi d'autres enfants avec une autre femme que ta maman. Et il a fini par couper les ponts avec cette famille. Et il t'a reconnu seulement à ce moment-là.
Quand il allait dans une direction, il restait dans cette direction et tout le reste cessait d'exister. Et ce qui fait que je ne les ai jamais rencontrés, mes demi-sœurs. Jamais. Et donc, c'est des années plus tard, encore beaucoup plus tard, que j'ai découvert qu'il m'avait reconnu qu'à 12 ans. Donc j'étais devenu son fils à cette époque-là, et tout d'un coup, il est devenu aussi très présent, de jamais là, il est devenu là tout le temps. Et j'ai dû apprendre à vivre avec cet homme qui était mon père, ça je le savais. Mais voilà, je l'ai découvert. Pour moi, il avait quelque chose de monolithique. Pour moi, c'était comme une espèce de dieu incarné, quoi, en fait. Il était fort, il était dur, il était... Rien ne pouvait l'atteindre. C'était l'image idéale de ce qu'un petit gars qui n'a jamais vu d'homme réellement dans sa vie pouvait attendre. C'est le héros des films, quoi, en fait. Il y avait quelque chose de mystérieux. C'était vraiment... C'était un héros, voilà, quelque part, pour moi. Et je suis passé à un système référentiel très différent. Forcément, parce que j'étais peut-être, je sais rien moi, est-ce que j'étais éduqué comme une petite fille, comme un petit garçon, j'en sais rien. Mais je pense que j'avais des côtés peut-être un peu efféminés, comme disait mon père. Voilà. je pense que j'avais des côtés un peu efféminés. Et quand il est arrivé, bah, il a fallu que tout ça, ça disparaisse. Il fallait que je devienne un petit bonhomme, un garçon, un homme, ensuite, par la suite, un mâle, quoi. Alors, il avait beaucoup de mots pour me qualifier, des mots qui n'étaient jamais très, très flatteurs. Mais pour moi, cet inconnu, le fait qu'il me dise des choses, ça veut dire qu'il s'intéressait à moi, même si c'était pas flatteur. Il me disait, voilà, t'es bouboule, t'es enveloppé, t'es pas très... je sais plus comment il me le disait, mais il me faisait sentir que j'étais pas le garçon à la hauteur de ce qu'il attendait. Puis mon père était commando marine, il s'est retrouvé en Indochine quand il avait 16 ans. Il a eu un parcours, il en a bavé, quoi, en fait. Et par la force des choses, il essayait de reproduire ça avec moi. Il a dû être très surpris aussi de découvrir ce petit garçon chez lui, qui en fait, je pense, bah, maintenant que je m'en rends compte, était un peu une petite fille, quoi.
Pourquoi tu dis que tu étais comme une petite fille ?
Je pense que c'est plus dans ma sensibilité, quoi, tout simplement. Ma sensibilité, c'était affirmer de manière très... Bah, de ce qu'on associe en général à une sensibilité féminine, dans l'écoute, dans la réception, dans la subtilité. Et... Ouais, j'avais beaucoup de copines féminines quand j'étais petit gars. Ouais, toutes les voisines, c'était mes copines. Et j'avais très peu de petits gars copains. Et tout d'un coup, ben, je me suis rendu compte que ben voilà, ce type qui était un inconnu, ben, il n'attendait pas ça de moi. Donc j'ai fait un reset et je suis devenu petit garçon, quoi. Mais tout ça, c'est vraiment drôle parce que c'est quelque chose que je sais, mais qui au niveau inconscient et dont je me rends compte qu'à force d'en parler. Et au moment où j'ai écrit le livre, c'était pas encore clair dans mon esprit, c'est juste en t'en parlant maintenant que je comprends ça. C'est vraiment juste maintenant. Oui, c'est ça, j'avais vraiment ce côté féminin, je côtoyais que des petites filles à l'époque, et voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de bien ou de mal là-dedans, c'était juste comme ça. Mais après, voilà, il a fallu que je rattrape son intérêt à mon père. Et c'est là que tout a changé, et j'ai pensé l'intéresser de plein de manières différentes, en changeant mon attitude, en changeant qui j'étais. Je faisais de la natation déjà à l'époque, et la natation, j'en faisais parce que, commando marine, dans mon esprit, je reliais ça à l'eau. Donc je faisais ça parce que je pensais qu'il comprenait. Mais je l'ai jamais vu nager, mon père, à part une fois à la mer, et il sait pas nager, en fait.
Donc avant d'être commissaire de police, ton père avait été dans la marine, et tu imagines, à cette époque, qu'être dans la marine, ça veut dire nager.
Ça paraît tellement débile, mais ouais, dans mon esprit d'enfant, c'est ça que j'ai fait. Donc voilà tous ces liens qu'on fait et ce que j'ai pu construire d'absolument radicalement faux à partir de ma projection et surtout avec quelqu'un qui ne parlait mais pas du tout. Pas du tout du tout. Qu'est-ce qu'on fait face au non-dit ? On interprète. C'était juste ma projection de ce que je pensais qu'il attendait de moi. C'est peut-être encore pire que tout parce que de sa façon un peu bizarre, je suis persuadé qu'il m'aime. Mais moi, je ne l'ai jamais compris comme ça, quoi, en fait. Et j'ai toujours fait ce que je pensais être ce qu'il attendait de moi. Voilà, c'est ça. Et pas ce qu'il attendait réellement de moi. Est-ce qu'il attendait réellement quelque chose de moi ? J'en sais rien.
Au moment de faire tes études, tu sais pas du tout quoi faire. Voilà, tu racontes qu'à ce moment-là, tu savais pas quelle voie prendre. Et puis finalement, donc, tu choisis les lettres. Tu peux me raconter ?
En fait, ce que je voulais, c'était faire psychiatre. C'était vraiment ça. Je voulais faire médecine pour faire psychiatre. Et mon père a balayé ça d'un revers de la main en disant « Les psychiatres, ils sont tous plus fous que leurs patients. » Et j'étais tellement dans une forme de soumission, une forme de vouloir adhérer à ce qu'il disait que bah, je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait pour toutes les plus mauvaises raisons du monde. J'aurais réussi ou pas, j'en sais rien, mais... Du coup, moi, je me réfugiais, je pense, dans les livres, à l'époque. Donc je lisais énormément, et je me suis dit que je vais faire des lettres modernes, parce que c'est comprendre les livres. C'est pour ça que j'ai fait lettres modernes. Donc j'ai passé quelques examens et sur les murs de la fac, il y avait une affiche. Partait en Hongrie faire lecteur. Je ne sais pas ce que c'était qu'un lecteur, je n'avais aucune idée de ce que c'était que la Hongrie, il n'y avait pas Internet à l'époque. Je dis ok, je vais au bureau, parce que la date était passée, je leur dis mais il y a quelqu'un qui part en Hongrie? Ils disent non. Et puis deux semaines après, j'étais parti en Hongrie.
Et c'était quoi ce fameux boulot de lecteur?
C'est juste un faire assistant d'un enseignant. Et donc voilà, j'ai donné quelques cours, je l'ai assisté, et puis j'ai rencontré là-bas celle qui deviendra ma future ex-femme. Et on s'est mariés très tôt. J'avais 23 ans, elle avait 21 ans. Et quelque part, il y avait aussi cette forme de validation. Voilà, je suis marié, tu vois, papa. De retour de Hongrie, là, je me dis, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Et là, badaboum, papa, militaire. Donc, je postule pour faire officier spécialisé dans la marine nationale. J'étais retenu assez rapidement. Et puis, bah, c'était bon, c'était parti. Une fois de plus, j'ai fait un revirement radical, 180 degrés, à 180 degrés. La Suisse est en moi.
Donc en fait, tu es devenu officier de la marine comme ton père.
Alors je suis devenu officier de marine, effectivement, parce que mon père était dans la marine, mais lui, il était homme du rang, il était matelot. Et il fallait que je fasse mieux que lui. Donc il fallait que je sois officier. Donc après avoir réussi ce recrutement dans la marine nationale, j'éprouve un peu de frustration à ne pas vraiment embarquer, ne pas avoir de fonction de commandement, et je rentre dans l'armée de terre, où là, cette fois-ci, je serai ce qu'on appelle officier des armes, c'est-à-dire que je vais commander. Dans ma représentation, avec le père que j'avais, pour moi, être un homme, c'était... c'est comme je le dis dans le bouquin, quoi, c'est faire sauter des trucs, faire exploser des trucs. Et de porter un uniforme, aussi porter un uniforme, c'est la fierté qu'on a de porter cet uniforme et puis de tout ce qu'on lui met derrière. Ouais, c'est Batman, quoi. Bruce Wayne, il met son costume de Batman, il devient Batman, et puis ben, l'homme tel que je l'imaginais, ben, il met son treillis, il devient un surhomme. Sur son uniforme, on voit quel grade il a et on voit que c'est un militaire, donc c'est identifiable, c'est clair, c'est net aussi. Peut-être que j'avais besoin de cette clarté dans mon esprit, de me dire, voilà, je suis militaire car je porte l'uniforme.
T'avais besoin d'être estampillé.
C'est ça, c'est parfaitement dit. J'avais besoin qu'on me mette cette étiquette, celui-là, faut pas l'emmerder parce qu'il est viril, parce qu'il a un uniforme. C'est comme ça que je le voyais. Mais c'est pas ça. Non, forcément, c'est pas parce qu'on met un uniforme qu'on se transforme en soldat ou en super soldat. Au contraire, ça change rien, c'est juste un bout de tissu. Mais pour moi, c'était très 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 important. Et il était très important pour moi d'avoir des galons droits d'officier sur les épaules.
C'était une reconnaissance que tu n'avais pas eue de ton père, notamment.
C'est exactement ça, une reconnaissance que je n'ai pas eue de mon père. C'est parfaitement ça.
Et donc, qu'est-ce qu'il en a pensé, justement, ton père, quand tu es entré dans l'armée?
Dans la marine, je pense que ça n'a fait que raviver ses souvenirs, et du coup, je pense que ça ne lui a pas fait plaisir de manière égoïste. Mais quand j'ai été officier dans l'armée de terre, on a eu notre remise des galons de sous-lieutenant à la fin de notre formation, et il était présent avec ma mère, et ma mère a pleuré toutes les larmes de son corps ce jour-là. Je m'en souviens parfaitement. Et mon père, il était tellement fier, il était droit, je ne l'ai jamais vu aussi fier de moi. Quelque part, à ce moment-là, j'ai réussi. Je me suis retrouvé sur des théâtres où l'armée française était engagée. Ça reste des choses dont j'ai du mal à parler. Mais c'est des expériences qui m'ont traumatisé, ça je m'en suis rendu compte en discutant avec d'autres personnes.
D'accord, des épisodes traumatisants sur le terrain?
Oui, ah oui, oui, clairement. On avait un sous-off qui avait été fait prisonnier en Yougoslavie, et il en avait gardé des séquelles psychologiques. Et on voyait quelquefois que son regard se vidait, en fait. Il était avec nous, mais il était au fond de sa souffrance. Et une fois, j'étais à côté de lui lors d'une manœuvre, et puis il magouillait un truc avec une grenade. Et il l'a dégoupillé. Il avait encore la cuillère dans la main, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas détonner. Mais il l'a posée sur ma poitrine et s'est collé contre moi. Et je me suis dit, mais là, il y a plusieurs choses qui se passent dans sa tête. On a l'instinct de survie qui... On sait qu'il y a 4 à 7 secondes entre le moment où la cuillère saute et puis le moment où la grenade explose. Donc, qu'est-ce que je fais, quoi ? Et en même temps, il y a ce côté bonhomme de le regarder dans les yeux et lui dire « J'ai pas peur. Tu ne me fais pas peur. » Et lui, je voyais, il n'était pas là, il n'était pas en face de moi quand il a fait ça. Et là, j'ai quand même eu très peur parce que je me suis dit que pour lui, sa vie n'avait plus de sens. Qu'il y ait quelqu'un avec lui quand il se la prend ou passe, c'était pas important. Et ouais, c'était mon premier véritable rapport avec ma mort potentielle. Et de manière complètement aléatoire, quoi, en fait. Et ça m'a pas posé de questions, en fait. Alors que ça aurait dû me dire, écoute, Coco, ouais. J'étais juste fier que j'ai pu le regarder dans les yeux et qu'à la fin, il ait pu retenir mon nom. C'est dire. Il a retenu mon nom après ça. Et la fois où j'ai vraiment le plus clairement regardé la mort dans les yeux, c'est le premier tir de lance-roquette anti-char. C'est à l'entraînement, quoi. Et quand on est à l'entraînement, on fait plein de choses. C'est là qu'on se fait le plus de mal. Donc il y a un tireur, il y a la personne qui charge. Moi, j'étais la personne qui chargeait. Et quand le tireur appuie sur la détente et que ça fait clic, 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 on sait qu'il y a un problème avec la roquette. Et que la roquette, il faut la sortir. Donc la roquette, ce qui va exploser sur l'ennemi, il faut la sortir, la regarder, nettoyer les électrodes avec les doigts et la remettre dedans. Et là, on se dit, ça peut exploser à tout moment, je peux mourir n'importe quelle seconde. Et puis lui aussi, qui est à côté de moi. Mais ouais, non, après, il y a eu d'autres choses, mais ça, c'est mes deux premières expériences avec une mort violente et sans aucun sens.
Et pourtant, donc, t'as continué un moment après ça ?
Bien sûr. Bien sûr, parce que j'entendais pas les messages qui m'étaient envoyés, et moi, je crois que je l'avais compris avant que j'étais pas à ma place dans l'armée, mais il fallait que j'aille au bout, en fait, de tout ça. Il a fallu que je me rende compte de tout un tas de choses, parce que des signes nous sont envoyés en permanence de si on fait juste ou pas. Et on sait toujours si c'est juste ou pas, mais on a tendance à se dire, mais ta gueule, à cette voix qui nous dit pourtant ce qui est tellement juste. Et plus elle me le disait, plus je m'acharnais à lui montrer, à me démontrer que non, tu vas voir, je peux faire plus.
Elle disait quoi, la petite voix ?
Arrête ça tout de suite. C'est pas toi. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Mais je voulais surtout pas me regarder dans le miroir, en fait. Et littéralement, je ne me regardais pas dans un miroir. Je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. Littéralement. Pendant des années. Je ne pouvais pas voir la personne que j'avais en face de moi. Je ne pouvais pas la voir. Peut-être que quelque part, il y a cette fameuse petite voix qui me disait « T'es pas ça ?» Un des autres événements qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, un de ces signes qui nous sont envoyés et qui paraissent mais tellement évidents une fois qu'on a fait le chemin qu'il faut, mais à l'époque c'était pas le cas, c'est que lors d'un entraînement de franchissement, c'est-à-dire qu'on devait gravir un mur d'à peu près 5 mètres de haut en groupe, eh ben, je suis tombé, j'ai glissé, je suis tombé. Et en touchant le sol, il y a les poumons qui se vident, il y a le sac qui a un petit peu amorti le choc, et on se dit, voilà, je me relève et j'y vais. Sauf que là, non, il n'y a rien qui se passe. Les jambes ne bougent pas, mais du tout. À ce moment-là, j'ai un souvenir très clair de la lumière autour de moi qui était beaucoup plus intense. Tout était beaucoup plus intense autour de moi. Et tout est ralenti, quoi, en fait. Et là, il y a... Je ne sais pas combien de temps ça dure. Et là, on entend... « Qu'est-ce que tu fous ? Dépêche-toi » !»« Qu'est-ce que tu fous ? Dépêche-toi » Et là, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est remis en route, où j'étais chaud, et puis c'était reparti. Donc je continue cet entraînement et puis je repars chez moi parce que c'était un des quelques week-ends où on pouvait repartir. Et le lendemain, au réveil, ma femme de l'époque était déjà levée. J'essaie de me redresser et ça ne bouge pas. Rien ne bouge, en dessous de la taille, rien. Et là, il y a vraiment un grand moment de... Ouais, une panique panique blanche, je sais pas comment dire. Il y a un moment où on sait pas ce qui nous arrive et ça bouge pas. On se dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est?
T'as cru que t'allais rester paralysé?
Je sais pas si on se dit ça à ce moment-là. Il y a plein de choses qui viennent dans la tête. Que je suis paraplégique, est-ce que je suis tétraplégique? Puis après, ça fait un peu rigoler de se dire, est-ce que c'est tétra, est-ce que c'est par... on sait plus. Et puis, à ce moment-là, je me suis calmé. Je me suis dit, de toute façon, à quoi ça sert de paniquer? Est-ce que tu vas appeler ta femme pour qu'elle vienne, qu'elle fasse quelque chose? Non, parce que c'est un signe de faiblesse. Donc, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Et là, je pense clairement que j'ai fait ce qu'on appelle une prière et j'ai dit, si c'est possible, si c'est ça qui est en stock pour moi, faites en sorte que je marche encore. Et c'est revenu. C'est revenu comme un feu. C'est reparti dans les jambes. Bon, après, ça n'a pas été évident. J'ai eu des séquelles, j'ai eu une nerf sciatique, j'ai deux disques qui sont foutus et ainsi de suite. Mais la machine fonctionne. Donc pour moi, ça veut dire que mon mental a été plus fort que la matière, ce qui est absolument faux. Mais c'est comme ça que je l'interprétais. Donc il fallait que je retourne à l'armée, et là, en serrant les dents, j'ai continué avec ce handicap, sans réellement parler à part au toubib. Et des douleurs qui... Ouais, des douleurs tellement fortes qui font que t'es obligé de t'asseoir, que t'as envie de vomir, que tu peux rien faire, c'est une douleur qui remplit tout ton univers, quoi.
Et même à ta femme de l'époque, tu n'en parlais pas ?
Rien, pas un mot.
Tu pouvais pas admettre, reconnaître le fait d'avoir mal ?
Absolument
pas. Ça aurait été une défaillance en tant qu'homme.
Tout à fait. C'était pas possible, c'était pas concevable pour moi de dire que j'avais mal. Et le plus fort, c'est que à partir du moment où j'ai pu dire que j'avais mal, bah, la douleur est partie. C'est pas idéal, hein, j'ai encore quelques raideurs, mais c'est pas un miracle. Enfin, peut-être, si c'est peut-être un miracle. Donc en 2008, mon fils est né, et pour moi, ça m'indique qu'il faut que je remplisse une autre mission. Et j'ai troqué mon costume de militaire pour un costume de papa.
De papa au foyer, d'ailleurs.
De papa au foyer, exactement. J'ai pris un congé paternité quand il avait 8-9 mois, et j'ai passé un an avec lui tous les jours. J'ai tout plaqué et je suis resté avec lui 24-24.
Tu as voulu faire ce que ton père n'a pas fait, être présent pendant la petite enfance. Comment tu l'as vécu de passer de militaire à papa à plein temps ?
C'était, toute proportion gardée, tout aussi difficile que le temps passé dans l'armée, ouais. Déjà, s'occuper d'un enfant, ça vient pas de soi. Ça c'est quelque chose qui s'apprend, même si l'amour est là. Je me rends compte en discutant avec toi aujourd'hui, je suis passé d'un extrême à l'autre en allant en me disant il faut que je sois papa, donc il faut que je sois présent. Mais ce que j'essayais de faire, c'était en gros comme si j'étais sa maman, j'étais très, très maternant en fait avec lui. Et ben repasser dans un autre extrême, ça n'a servi à rien quoi, en fait, parce que je ne me trouvais pas moi non plus là. Et on ne peut être vraiment disponible pour quelqu'un que quand on est bien avec soi. Et comme j'étais pas bien avec moi, ben, c'était. Je ne vais pas dire que ça se passait mal, mais c'était idéal pour absolument personne.
Ça t'a pas aidé à renouer avec cette part de féminité que tu avais complètement mise de côté ?
Toujours pas. Vraiment pas. Cette part de féminité, pardon, elle est désormais en voie d'être acceptée, mais à l'époque, c'était vraiment pas le cas. C'était vraiment, vraiment pas le cas. Parce que j'étais pas au clair avec ma masculinité, ma virilité, j'étais pas au clair avec ma féminité, j'étais pas au clair avec le rapport que j'avais avec ma femme de l'époque, j'étais pas au clair avec personne, aucune relation en fait.
À commencer par toi-même.
Évidemment. À l'issue de cette année que j'ai passée avec lui, je décide de revenir à ce projet d'être prof. Et donc je prépare ce concours, je le réussis à la fin de l'année, et je commence à enseigner en septembre 2010 en Seine-Saint-Denis. Et franchement, c'était une année géniale. Alors ça n'a pas été simple, hein, parce que le premier mois où j'ai enseigné en Seine-Saint-Denis, je ne pouvais pas tourner le dos à la classe. Sinon, il mettait le feu, quoi. Alors il y avait un des élèves de la classe, c'était la terreur de l'école. Les enseignants avaient peur de lui. Les élèves qui faisaient deux fois son poids ou sa taille avaient peur de lui, tout le monde avait peur de lui. Il était incontrôlable, il était imprévisible. Le jour où on est entré en classe, il est resté sage le temps qu'on monte. Et arrivé à la salle de classe, il prend son sac, il le jette, mais de toutes ses forces, sur la tête de son camarade d'à côté qui n'avait rien demandé, et il part en hurlant dans le couloir. Et là, il y a la seconde où on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse faire? Ou est-ce que je lui dis, écoute Coco, t'as le shérif qui est arrivé, faut que t'arrêtes de déconner.
J'ai un lance-roquette, je me préviens.
Eh ben, j'ai dit calmement aux élèves, vous rentrez dans la classe, vous vous installez. Et je lui ai couru après, je l'ai attrapé, je l'ai mis sur mon épaule. On est rentré dans la classe, pas un bruit dans la classe à ce moment-là. Ils attendaient tous. Je pense qu'ils avaient besoin de voir que quelqu'un allait prendre la situation en main. Je l'ai mis sur son fauteuil et je lui ai dit, tu bouges une oreille. Je m'en souviens, je ne sais pas d'où j'ai sorti cette phrase, je t'encastre dans le plafond. Et c'est tenu au calme pendant la demi-matinée, puis après c'était parti. Mais ce petit gars, au bout d'un moment, avec les efforts de toute l'équipe, il a été réintégré. Il allait lire des histoires aux petits de maternelle, ce qui le valorisait. Et moi, en sport, je le mettais systématiquement capitaine de l'équipe. Et du coup, il s'est trouvé à sa place, quoi, en fait. C'était vraiment valorisant parce que je voyais le résultat de mes efforts. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je voyais un vrai résultat, le résultat de mes efforts. Et du coup, le jour où je suis parti, il m'a dit, maintenant que je suis normal, les autres ne me respectent plus. Message qui s'adressait à lui-même et puis qui du coup s'adressait à moi, mais que j'ai compris plus tard. Ensuite, ma femme de l'époque a eu une mutation en Suisse et c'était pour nous l'occasion de faire un reset, quoi, quelque part. Pour moi, c'est comme ça que je le voyais. Et quelques mois après, on a acheté une maison ensemble, ce qui était peut-être un de ce qu'on appelle rêve de vie commune. Et puis, à partir de là, ça n'a plus marché. Et c'est là qu'on s'est séparés, qu'on a divorcé, quand mon fils avait un peu moins de 5 ans. Quand son enfant, on le voit tout le temps, tous les jours, ne plus le voir, c'est un vrai manque. C'est comme une partie de soi qu'on arrache.
Tu le voyais un week-end sur deux, c'est ça?
Oui. Mais mon objectif, c'était de plus le voir, en fait, de plus passer de temps avec lui. Donc, au bout d'un moment de psychothérapie, au bout d'un an de psychothérapie, on a réussi à tomber d'accord sur le fait de faire une alternance une semaine chez l'un et chez l'autre.
Après le divorce, commence une phase où ça va pas du tout. Tu fais un burn-out, t'es hyper déprimé, tu perds ta maman.
Effectivement, alors je continue d'enseigner, mais cette fois-ci en Suisse. Et au bout d'un moment, je me rends compte que ça va plus du tout. Je finis par me dire que je me sens mais vraiment trop mal. Donc je vais voir une toubib que je connaissais, mais pour le coup ni d'Ève ni d'Adam. Et elle me voit arriver, et elle fait une de ses têtes en me voyant arriver. Et ça, je le réalise à l'époque. Je me dis, ok, ça doit vraiment beaucoup se voir. Et donc on discute, je lui présente la situation, et elle me dit, là il faut vous arrêter. Elle me dit, ça va vous prendre du temps. Je lui dis, mais... Combien? Deux semaines. Dans deux semaines, je peux retourner travailler. Et là, elle me regarde, elle dit rien, mais je comprends que ça va pas être deux semaines. Mais je me dis quand même, ça va être deux semaines. Dans deux semaines, je retourne au travail. Ben, il m'a fallu plus de 3 ans. Enfin, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je me réveille.
La suite dans la deuxième partie de l'épisode.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.